Alexandra Ben Saïd, votre invitée est députée socialiste des Hautes-Alpes.
Bonjour Karine Berger.
Bonjour.
La candidature de Vincent Peillon, c'était le 11 décembre. Le projet sera présenté le 6 janvier. Et c'est vous qui chapeautez la rédaction. Est-ce que ça avance?
Ça sera le 3 janvier et ça avance énormément. D'abord, tout simplement parce que Vincent Peillon, quand il présente sa candidature, c'est ce qu'il veut en grande partie pour le pays. Et puis, franchement, depuis le 11 décembre, nous avons reçu des contributions de la France entière, de la Loire-Atlantique, de Toulouse, du Nord, de Rennes, de tout le Sud-Est, d'élus, de militants, de sympathisants, tout simplement de la gauche vivante, de la gauche des valeurs, de celle qui veut que le pays continue à être gouverné à gauche. Et ce bouillon d'idées est en train d'amener à la construction d'un projet pour le 3 janvier.
Est-ce que c'est normal de se présenter sans avoir mûri un projet?
Vous savez, quand François Hollande décide de ne pas être candidat, quand il l'annonce, c'est une surprise pour beaucoup. Et en tout cas, pour Vincent Peillon, c'est une vraie surprise. Il avait toujours dit qu'il souhaitait que le président soit candidat. Peut-être à la différence d'autres candidats à la primaire. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il fallait une candidature au sein de la gauche, au sein du Parti Socialiste, qui engage enfin la réconciliation au sein des socialistes et de la gauche. Et c'est la logique de la candidature de Vincent Peillon à cette primaire.
Alors toute la question, c'est pourquoi faire? Vous qui êtes responsable des idées, vous avez entendu Jean-Marc Vittori, le chômage. Ben voilà, ça, la politique pro-entreprise, le pacte de compétitivité, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Tout ça, ça marche, il faut continuer la politique de l'offre. C'est ce que va nous dire le candidat Peillon?
Il va nous dire, je ne sais pas, d'ailleurs c'est lui
qui
présentera son projet. Il présentera son projet le 3 janvier.
C'est vous les idées.
En tout cas, je coordonne avec Sarah Proust l'ensemble du projet. Et je suis économiste, effectivement. Ce qu'a dit Jean-Marc Vittori est très important. On commence à avoir des effets d'enrichissement de la croissance en emploi. C'est-à-dire que grosso modo, avec simplement 0,9% de croissance en moyenne sur l'ensemble du quinquennat, on a enfin réussi à faire redémarrer la croissance économique dans notre pays. C'est très fragile. C'est aussi aidé par un certain nombre de reprises, notamment l'investissement des ménages. C'est la consommation des ménages aussi. C'est un peu la politique de l'offre, mais soyons clairs, on est très déçus par les embauches qui ont été créées à ce stade directement par le CICE et le pacte de responsabilité. 40 milliards d'euros et environ 100 à 150 000 emplois créés uniquement par cette politique de l'offre. C'est beaucoup moins, par exemple, que le gain en croissance qu'on a eu avec la dépréciation de l'euro. 15% de dépréciation de l'euro en 5 ans, c'est à peu près 3 fois plus en termes de croissance.
Donc ça veut dire quoi pour les chefs d'entreprises qui sont peut-être en train de nous écouter? Ça veut dire que le candidat Peillon, il va dire on continue pas?
Non, oui,
on continue mais avec des contreparties plus précises?
Il fallait sans doute un certain nombre d'actions en direction du coût de fonctionnement des entreprises, mais il fallait aussi, et je crois que c'est la conviction de Vincent Peillon, qu'il y ait un certain nombre de contreparties négociées dès le départ. Il fallait des contreparties.
Oui, mais maintenant on est en 2016, Karine Berger, donc
oui,
qu'est-ce
mais
qu'on va
ces
faire
contreparties,
à partir de 2017
Ces contreparties, elles sont toujours là. L'étape d'après, c'est toutes ces PME qui, en France, ont sans doute bénéficié d'une partie des baisses de coûts qui ont été décidées par le président Hollande, elles n'arrivent toujours pas à exporter. On n'arrive pas à exporter en France. Donc les prochaines étapes, elles sont simples. C'est faire un grand plan d'exportation pour les PME françaises et faire en sorte que quand vous exportez, vous avez la protection de votre propriété intellectuelle, vous avez de l'accompagnement au financement, vous avez de la sécurité, de l'assurance sur les pays que vous allez prospecter, etc. etc. Tout ça...
Et sur les baisses de charges? C'est ça la politique de l'offre.
Vous avez les baisses de charges, ça a été... En l'espace de 5 ans, 40 milliards d'euros, c'est quelque chose de considérable et qui, à ce stade, est arrivé à un maximum qui n'a pas de raison d'être poursuivi d'une ampleur importante. Tout simplement parce qu'avec 40 milliards d'euros, on a créé sans doute à peu près 100 000 à 150 000 emplois et qu'on n'arrivera pas à aller au-delà sans faire un vrai plan de productivité et de compétitivité, recherche, innovation, investissement dans la création. Des choses qu'on a commencé à ébaucher dans ce quinquennat, mais qu'il faut absolument écrire en France dans les années qui viennent.
Donc j'entends, ai-je bien entendu, que la politique de charge, en tout cas, ne sera pas continuée de même ampleur par le candidat Peillon. En tout cas, c'est ce qu'il proposera.
Je ne suis pas certaine qu'il y ait un candidat de la primaire socialiste qui propose 40 milliards de baisses de charges en plus dans les 5 années qui viennent. En tout cas, je ne crois pas que ce sera le cas de Vincent Peillon.
Mais certains pensent que c'est ce qu'il faudrait. Sur la fiscalité, vous avez un regard sur la politique fiscale qui a été faite durant ce quinquennat. Le candidat Peillon devrait proposer un bouclier fiscal pour les plus modestes. De quoi est-on en train de parler? De quels chiffres est-on en train de parler?
C'est très très concret. Quand vous êtes un ménage et que vous payez votre loyer, vous avez à la fin de l'année votre taxe d'habitation. que vous payez ou pas l'impôt sur le revenu, parce qu'il y a des gens qui sont exonérés, mais enfin, il y a beaucoup de gens, avec des revenus donc très modestes. Eh bien, ces revenus, ces taxes locales, elles ont augmenté en l'espace de 10 ans de 50%. Pour des ménages, c'est une situation vraiment dramatique à la fin de l'année, tout simplement parce que c'est ne plus arriver à payer son logement. Et donc ça, cette dérive-là, il faut arriver à la stopper. Il faut faire en sorte que l'ensemble des taxes qui ont augmenté de manière, c'est vrai, excessive pour notamment ceux qui ont des moyens très modestes, soient remis à un niveau qui correspond aux revenus. Très concrètement, Alexandra Ben Saïd, il n'est plus question que les taxes locales augmentent plus vite que le salaire ou le pouvoir d'achat. Ce qui a été le cas au cours des dernières années, c'est vrai.
Donc et le donc bouclier ça fiscal, partie... ça sera à partir de quel... Enfin, vous voyez, combien
sera,
de personnes...
Ça sera annoncé le 3 janvier, mais...
Combien de personnes concernées? Vous avez chiffré déjà 2-3 milliards, donc ça veut dire combien de personnes?
Ça sera des millions de personnes. Ça sera des millions de personnes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui, au cours des 10 dernières années, ont vu leurs taxes sur l'énergie et leurs taxes locales augmenter beaucoup trop fortement par rapport à leur niveau de vie, tout simplement.
Karine Berger, on parle un peu de politique. Comment est-ce que vous qualifiez l'offre Payon après Hollande? Est-ce que c'est tout dans la continuité, pas de rupture, c'est ça?
L'offre Payon, c'est la réconciliation de la gauche et l'éthique en politique. La réconciliation de la gauche, parce que ce quinquennat, nous en sortons avec des blessures, des fractures. La situation politique de la gauche a été choquée par le 49-3, la déchéance de nationalité, et que par ailleurs, Manuel Valls a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas négocier avec la gauche du Parti Socialiste, avec Jean-Luc Mélenchon. Vincent Payon dit non. La réconciliation, c'est rassembler la famille socialiste et rassembler l'ensemble des électeurs de gauche qui, si on veut gagner en 2017, seront appelés à voter pour le candidat de gauche s'il est au second tour de l'élection présidentielle.
Il y a un petit côté tout sauf Valls hein, dans cette candidature
non,
Payon.
Non. C'est bien, la réconciliation, c'est se réconcilier aussi avec l'ensemble, on va dire, de ce qu'on appelle la droite du Parti Socialiste, ce qui n'est pas, par exemple, la volonté d'Arnaud Montebourg. Il faut absolument que toute la famille socialiste se retrouve derrière un projet, derrière un candidat dès fin janvier. Et ça passe d'abord par arrêter l'excommunication des uns et des autres, ce que les autres candidats à la primaire, jusqu'à présent, ont systématiquement fait. Et puis l'éthique en politique. En politique, la fin ne justifie jamais les moyens. La fin est dans les moyens. C'est-à-dire que c'est une méthode. C'est la possibilité de dire la vérité aux électeurs et d'y aller en respectant la parole donnée. Et cette éthique en politique, c'est Vincent Payon qui, à mes yeux, et je crois en réalité, l'incarne le mieux.
Donc candidature de dernière minute, au risque, on l'a déjà dit, hein, d'émietter l'offre à gauche.
Ah non, c'est pour rassembler l'offre à gauche, c'est pour recoller l'offre à gauche.
Pour le moment, tout le monde, les 7 candidats veulent recoller l'offre à gauche. Oui, les 7 candidats de rassemblement.
Vous ne pouvez pas vouloir la réconciliation si d'un côté vous expliquez que quoi qu'il arrive, vous ne négocierez pas avec Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre, vous expliquez que quoi qu'il arrive, François Hollande a laissé un quinquennat catastrophique.
Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, on parle une seconde de l'homme qui, à gauche, a une véritable dynamique et qui se situe hors primaire, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron propose une offre ni de droite ni de gauche, mais qui, parce qu'elle séduit une partie de l'électorat de gauche, interdit aux candidats de gauche issus de la primaire, ou presque, d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Et à l'inverse, parce qu'il y aura
un candidat de gauche... C'est-à-dire, tant qu'il y aura un candidat de gauche et Emmanuel Macron, la gauche ne sera pas au second tour, selon vous ?
C'est mathématiquement impossible. C'est-à-dire que deux candidatures aussi importantes que celle d'Emmanuel Macron et le candidat de gauche issu de la primaire, des primaires citoyennes des 22 et 29 janvier, fait que le second tour de l'élection présidentielle est écrit à droite et à l'extrême droite. C'est la responsabilité historique d'Emmanuel Macron de prendre ce risque. Moi, je dis encore et toujours à Emmanuel, essayons de faire en sorte de ne pas livrer le pays à la droite et à l'extrême droite, la droite filloniste et l'extrême droite Marine Le Pen, et mettons-nous d'accord avant le premier tour de l'élection présidentielle.
Karine Berger, chargée des idées du projet de Vincent Payon dans la campagne. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de votre invitation.
Merci Alexandra Ben Saïd. À demain matin.